Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. De nouveaux incidents violents dans le nord de la Cisjordanie occupée. Aujourd'hui, des heurts opposent les forces israéliennes à des habitants palestiniens. J-12 avant le second tour de la présidentielle en France et le face-à-face. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, les deux candidats sont les mêmes qu'en 2017, mais la configuration de cette élection est fondamentalement différente, nous dira Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne. Le Premier ministre italien a annoncé lors d'une visite à Alger un accord avec l'Algérie pour l'augmentation de ses exportations de gaz vers l'Italie. 300 000 personnes n'ont pas de domicile en France. Gros plan sur cette situation dans votre édition avec la présidente du collectif Les Morts de la Rue, Bérangère Grisoni. L'invité de Pluriel hier soir était Pierre-Henri, président de France Fraternité. Pour lui, il est hors de question de laisser Marine Le Pen remporter l'élection présidentielle le 24 avril prochain. Extrait dans votre journal. La police israélienne a abattu ce matin un Palestinien qui venait de poignarder un policier. C'est arrivé dans la ville côtière d'Ashkelon. L'assaillant était un habitant de la ville palestinienne de Hébron, dans le sud de la Cisjordanie occupée. Dimanche, les forces de l'ordre israéliennes avaient tué une Palestinienne qui avait poignardé un policier dans le centre d'Hébron. Et le même jour, une autre Palestinienne, veuve et mère de 6 enfants, se dirigeant vers des soldats israéliens près de Bethléem en Cisjordanie occupée, avait été tuée par les forces de l'ordre. Cette femme ne portait aucune arme et cela arrive alors que les forces israéliennes mènent une opération dans le nord de la Cisjordanie occupée dans la foulée d'une attaque qui a fait 3 morts le 7 avril dernier à Tel Aviv. Le candidat Emmanuel Macron se dit prêt à bouger sur le recul de l'âge de départ à la retraite. Le président candidat n'exclut pas d'adoucir son projet de reporter l'âge de départ à 65 ans dans le cadre d'une négociation et d'ouvrir la porte à un report à 64 ans. Il s'est aussi dit ouvert à un référendum. Nicolas Sarkozy annonce qu'il votera pour Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle le 24 avril prochain. L'ancien président de la République n'avait pas publiquement soutenu la candidate de son ancien parti Les Républicains, Valérie Pécresse, avant le premier tour, et l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin affirme lui aussi qu'il votera pour Emmanuel Macron. Les deux candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, sont les mêmes qu'il y a 5 ans, en 2017, mais la configuration de cette élection est fondamentalement différente de la précédente, comme le souligne Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne.
La différence fondamentale entre le scrutin de 2022 et le scrutin de 2017 tient à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que il y a un sortant. Emmanuel Macron, en 2017, était un candidat nouveau qui venait profondément bouleverser les lignes politiques de la droite de gouvernement et de la gauche de gouvernement, voulant les dépasser. Et là, en l'occurrence, il a un bilan à défendre, il a 5 ans de pratique du pouvoir à justifier, et donc évidemment, il se retrouve dans la position de celui qui doit défendre, en effet, son bilan et son action. Donc ça change considérablement la donne. Ensuite, le deuxième facteur, c'est que on a face à lui une candidate qui est la même que celle qu'il a battue en 2017, mais qui, entre-temps, a bénéficié manifestement d'un recentrage de son image grâce, entre autres, à la candidature d'un candidat plus radical sur sa droite, Éric Zemmour, et cela reste à démontrer, mais bénéficier d'une dynamique anti-macroniste qui a pu voir le jour en France. C'est vraisemblablement, en tout cas, sur cette dynamique qu'elle va s'efforcer de capitaliser durant le second tour de cette élection. Le troisième facteur, c'est que la différence fondamentale en termes d'arithmétique électorale, c'est que l'on s'aperçoit que finalement, elle dispose de réserves de voix. C'est-à-dire que autant en 2017, les réserves de voix étaient profondément tarifs, celles de M. Dupont-Aignan, il y a là des possibilités de réserves de voix, même si la plupart des candidats ont appelé à faire barrage à Marine Le Pen, qu'il s'agisse de Valérie Pécresse, de Yannick Jadot, de Fabien Roussel, et même, dans une moindre mesure, de Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen a, disons, un potentiel électoral en 2022 qui semble, en tout cas, à première vue, supérieur à celui de 2017.
Donc, contrairement à ce que mentionne une partie de la presse, Emmanuel Macron n'est pas le favori de cette élection.
Il l'est parce que le premier tour de cette élection l'a placé plus haut qu'on ne l'attendait, du moins ces derniers jours. Il faut constater quand même que à 28%, il est un candidat sortant qui a pu bénéficier d'une dynamique électorale qui a constitué une petite surprise quand même au soir de ce premier tour. Et qu'ensuite, clairement, pour l'instant, on regarde bien évidemment les simulations de second tour, qu'il faut prendre avec la plus extrême des précautions, il n'en demeure pas moins aujourd'hui favori. Mais il y a, disons, des zones de risque qui sont non négligeables, que je viens de vous citer, et qui n'existaient pas en 2017. Et on peut penser que, si vous voulez, là, les dynamiques électorales, les dynamiques de campagne, plutôt, vont jouer un rôle plus important lors de ce second tour que lors du premier tour, et plus important lors de ce second tour 2022. Autour 2017. Par exemple, il va de soi que la question du débat télévisé entre les deux candidats sera un enjeu majeur durant cette campagne, et qu'on peut imaginer que sa challenger, Marine Le Pen, va s'y préparer d'une toute autre manière que la manière dont elle s'y est préparée il y a 5 ans.
Et croyez-vous à une efficacité d'un hypothétique front républicain, ou alors l'époque a changé?
Ce qu'il reste du front républicain, c'est vraiment l'épaisseur du trait, pas beaucoup plus. C'est-à-dire que on voit qu'il y a la volonté implicite de réactiver ce réflexe, mais on avait déjà vu en 2017 que le front républicain, de fait, n'existait plus dans la forme qu'on lui avait connue par le passé, ne serait-ce que parce que un candidat, par exemple, comme Jean-Luc Mélenchon, n'avait pas explicitement appelé à voter pour Emmanuel Macron, pas plus qu'il ne vient d'appeler explicitement à voter pour Emmanuel Macron, même s'il a répété à 4 reprises qu'il ne fallait pas qu'il y ait une voix qui se porte pour Marine Le Pen. Donc, le Front républicain aujourd'hui est un objet politique plutôt du passé, et il y a une autre, à mon avis, dimension qu'il faut prendre en compte, qui est une dimension non négligeable, c'est que on est aussi dans une configuration où les électeurs sont beaucoup plus affranchis que par le passé, du fait de leur lien propre à la politique, des consignes de vote que peuvent donner les leaders politiques au lendemain d'une élection.
Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la Revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne. L'invité de Pluriel hier soir était Pierre Henry, président de France Fraternité. Pour lui, il est hors de question de laisser Marine Le Pen emporter l'élection le 24 avril, et il s'étonne des hésitations de certains avant le second tour, Pierre Henry.
Je vois dans un certain nombre d'associations de solidarité avec lesquelles je travaille une espèce de réticence à se prononcer pour le second tour. Mais où est-on ? Qu'est-ce qui a envahi les cerveaux pour que l'on puisse imaginer que l'extrême droite au pouvoir, oh, ce serait un petit moment, mauvais moment à passer, puis qu'ensuite on se referait la cerise parce que l'extrême droite échouerait. Mais c'est une politique du pire qui est insupportable. C'est une politique qui est bien connue en Europe. Allez demander à nos amis en Hongrie ce qu'ils pensent de l'allié de Marine Le Pen. Monsieur Orban, qui a supprimé les aides absolument à toutes les associations de défense des droits de l'homme. Donc, c'est pas simplement le ciblage d'un certain nombre de personnes en fonction de leur nom, de leur origine, de leur adresse. C'est le ciblage de toutes les organisations qui prônent les valeurs et qui supportent les valeurs de la République.
Le président de France Fraternité, Pierre-Henri, invité de Pluriel hier soir, émission présentée par Loïc Barrière, émission que vous pouvez retrouver sur votre site internet radioorient.com. Le Premier ministre italien a annoncé lors d'une visite à Alger un accord avec l'Algérie pour l'augmentation de ses exportations de gaz vers l'Italie. C'était après un entretien avec le président algérien, un accord entre le groupe énergétique italien Eni et le groupe algérien Sonatrach. L'Italie, qui importe environ 95% du gaz qu'elle consomme, est l'un des pays européens les plus dépendants du gaz russe. L'Algérie, l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Italie, est son deuxième fournisseur en gaz, dont proviennent 45% des importations gazières. 300 000 personnes n'ont pas de domicile en France en 2021. 623 personnes sont mortes dans la rue, dont 165 dans la capitale, selon un décompte provisoire du collectif des morts de la rue. Sa présidente, Bérangère Grisoni, souligne qu'il ne faut pas détourner le regard et ne pas avoir d'a priori face à ces personnes privées de toit, Bérangère Grisoni.
Changer de regard, déjà peut-être ne pas le détourner, mais c'est toujours compliqué, hein. Moi la première, hein, quand on se retrouve comme ça, nez à nez, avec une personne sans abri au coin d'une rue, qui est souvent assise par terre, c'est jamais très pratique d'être dans une position de regarder, de la considérer comme un être humain, hein, pour ce qu'elle est, de prendre ce temps-là, c'est aussi de l'humilité. C'est un devoir citoyen, ce sont des personnes, nos voisins, qui sont là en situation de grande précarité. Donc c'est effectivement, c'est déjà de ne pas détourner le regard. Ensuite, oui, ne pas avoir d'a priori, alors ça c'est peut-être facile à dire, hein, mais en tout cas, voilà, c'est pouvoir se renseigner. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent auprès de ces personnes et peut-être à ce moment-là faire la démarche ou il y a pas mal de littérature, des rapports qui sont publiés tous les ans. Je pense celui de la Fondation Abbé Pierre, entre autres. Donc, en tout cas, il y a tout ce qu'il faut pour enlever ces a priori.
Un événement qui a marqué la population, ce photographe qui est décédé en plein Paris. Les personnes qui l'ont croisé l'ont pris pour une personne sans abri. Cette personne est morte. Personne ne s'est approché d'elle. Et cela arrive régulièrement à des personnes sans abri.
C'est même pas de l'indifférence, parce que là, pour moi, c'est non-assistance à personne en danger. Là, c'est vraiment la première des choses. Quand on voit quelqu'un qui semble avoir un problème, un malaise, qui est à terre, protéger, alerter, secourir, hein, ce sont les règles de base pour n'importe quelle détresse. Je pense qu'il faut surtout pas, il n'y a pas des sous-citoyens, mais que ce soit une personne qu'on prendrait pour une personne sans abri, j'ai envie de dire, et alors ? Une personne en détresse, c'est une personne en détresse, qu'elle soit sans abri ou pas, et que ça se passe n'importe où. La moindre des choses, c'est de protéger, alerter, secourir. Ça me semble vraiment le minimum. Et effectivement, c'était au cœur de Paris, la nuit, et ça nous interroge tous, ce genre de comportement. C'est bien regrettable.
Quel bilan faites-vous du 115? Les personnes aujourd'hui qui contactent le 115 ont-elles une réponse? Dans quelle proportion?
Les personnes aujourd'hui, mais c'est pas d'aujourd'hui, qui contactent le 115, c'est très compliqué. Il y en a environ 3 800 personnes, on va arrondir à 4 000, hein, chaque nuit. Dont environ 1000 enfants qui appellent ce numéro 115 et qui restent sans solution d'hébergement, faute de place suffisante. C'est le 115 reste une mesure d'urgence. Il ne peut pas répondre à toutes les situations de sans-abrisme. C'est une porte d'entrée. Il ne faut surtout pas réduire toute la question de la grande précarité du sans-abrisme en pensant que la seule solution, c'est la réponse que pourrait apporter le 115. Mais c'est vrai que quand le 115, ce numéro d'urgence, n'est plus en capacité de répondre à la première urgence, effectivement, le signal d'alarme est lancé, et ça fait depuis très longtemps.
Lorsque l'on croise une personne sans abri qui semble être en difficulté, quel geste, quelle action chacun d'entre nous peut effectuer?
La plus simple, c'est compliqué d'évaluer la détresse. Mais c'est vraiment de, si on pense vraiment que la personne est en danger, faut alerter les secours. Hein. Moi, ce que je vous disais tout à l'heure, protéger, alerter, secourir, c'est la base hein, quand on passe son brevet de secourisme. C'est ce que j'ai appris quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais je pense à une expérience qui m'est arrivée il y a une vingtaine d'années dans le métro où je descendais de ma rame qui était pleine avec des centaines de personnes qui étaient sur le quai. Une personne était à terre, un monsieur très propre sur lui, mais peu importe, ça, les personnes sont vite passées parce que cette personne était en détresse respiratoire et à terre, hein, faisait une crise d'asthme. Et si au moins l'une d'entre elles était remontée pour alerter au point d'accueil quelqu'un en disant il y a quelqu'un qui semble mal, qui est en détresse respiratoire, j'ai été obligée d'apostropher quelqu'un en disant allez vite appeler les pompiers. Alerter au point d'accueil. Et je pense que les personnes ont peur et qu'elles ne savent pas trop que faire, elles évacuent le problème, la détresse d'une personne, ce qui est vraiment dommage. Pour moi, c'est un acte citoyen, peut-être de bon sens, me semble-t-il, mais oui, la moindre des choses, c'est qui se passe mal.
Bérangère Grisoni, la présidente du collectif Les Morts de la Rue, fin de cette édition. Vous êtes bien sur Radio Orient, il est 12h16. À 12h30, votre journal en langue arabe avec Roger Coury. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash, 18h pour votre journal. L'invité de Pluriel à 19h sera Bariza Chiari, ancienne vice-présidente du Sénat, membre du bureau exécutif de La République En Marche, émission présentée par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.